Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
La psychogénéalogie est une nouvelle science humaine en prolongement de la psychanalyse dont le but est de rechercher les empreintes psychologiques que nos ancêtres ont pu laisser en nous, le plus souvent à notre insu, et qui peuvent néanmoins éclairer nos comportements actuels. Nous retrouvons la troisième partie de cette série, la psychogénéalogie, les secrets de famille, une émission de Bénédicte Niogré réalisée par Claude Chovanetti et diffusée le 13 août 2005.
La psychogénéalogie ou la transmission de la mémoire familiale. La part cachée. Le passé est une maison pleine de secrets. C'est la part cachée de notre histoire, où l'on retrouve parfois des enfants morts-nés dont on n'a pas parlé, des maladies mentales inacceptées, un ancêtre prétendument héroïque qui se révèle médiocre, des condamnations tues, et, dans les cas les plus graves, des cas d'inceste ou de filiations inavouées. Si l'héritage peut être la cause de nombreuses tensions, le plus souvent, ce n'est pas pour des raisons pécuniaires, mais parce que ces tensions cachent des problèmes affectifs et symboliques liés à la transmission de la mémoire et de l'identité. Le jour où ces questions sont abordées, il faut savoir comment les intégrer. En se demandant si le plus grand secret, la question que depuis toujours se pose l'Orient, celle qui n'a pas de réponse si ce n'est intérieure, n'est pas celle de savoir pourquoi l'on a choisi ses parents, cette époque, cette histoire. La part cachée de nos origines est la part manquante qu'il faut tenter de se réapproprier.
C'est une histoire en fait qui remontait à deux générations précédentes.
Serge Tisseron.
La personne qui me l'a raconté était la petite fille des personnes qui s'étaient trouvées en première ligne dans ce secret. Vous savez, dans les histoires de secrets, il y a toujours plusieurs générations impliquées. Eh bien, la première génération impliquée dans ce secret vivait au début du siècle et une femme mariée avait eu un enfant d'un autre homme, relativement banal, hein, et cet autre homme n'avait pas reconnu l'enfant, bien sûr, mais le jour de la communion de l'enfant, il avait fait cadeau à la famille d'une salle à manger. Et ce garçon, on peut l'appeler Bernard par exemple, ce garçon donc avait pressenti quelque chose autour de sa naissance, il avait évidemment perçu ce cadeau comme bizarre, mais enfin vous savez, il avait fait comme souvent les enfants, il avait mis tout ça dans un petit coin de son esprit et il avait décidé de ne pas poser de questions parce qu'il s'était bien vite aperçu que ces questions perturbaient son entourage. L'entourage ne voulait pas en parler, donc il avait appris à faire pareil, à ne pas poser de questions. Puis cet homme était devenu adulte, il était devenu père à son tour, et sa mère, au fur et à mesure qu'il vieillissait, sa mère lui avait quand même dit qu'il y avait un secret important autour de sa naissance, et elle lui avait promis de ne pas mourir sans le lui révéler. Mais les années passaient, Bernard n'avait toujours pas la confidence du secret, et finalement, sa mère, sur son lit de mort, lui dit que dans le buffet, le fameux buffet de la salle à manger offerte pour la première communion, elle a caché une lettre, et que Bernard pourra donc découvrir le secret qu'il concerne après la mort de sa mère. Alors évidemment, après la mort de sa mère, Bernard se précipite vers le buffet, et là, il le retourne dans tous les sens, il le désosse, il ne trouve pas la lettre. Il reste malgré tout attaché à ce buffet, et on le comprend, parce que il peut imaginer que peut-être, s'il avait mieux cherché, il aurait trouvé la lettre, et il peut imaginer aussi que même si la lettre a été subtilisée, eh bien, ma foi, sa mère lui a quand même pointé ce buffet comme un lieu où peut-être un jour il découvrirait le secret de ses origines. Alors cet homme, Bernard, garde ce buffet, il est amené à se débarrasser des autres meubles de la salle à manger, mais il garde ce buffet précieusement, et puis après sa mort, eh bien, ce buffet est gardé dans sa famille, et voyez, en troisième génération, eh bien, j'ai rencontré une femme qui m'a raconté cette histoire. La filiation de son père avait été explicitée depuis, elle l'avait su par une tante, elle avait su également par la même tante que la fameuse lettre avait été subtilisée par les demi-frères, hein, qui ne voulaient pas risquer le scandale de la découverte découverte par Bernard de ses origines. Et du coup, eh bien, ce buffet avait un petit peu joué un rôle, on pourrait dire, de passeur d'un secret entre les générations. Ce buffet était le témoin qu'il existait un secret important, mais voyez, en même temps, c'était un témoin condamné à être muet, mais c'était un témoin dont on ne pouvait pas se séparer, parce que chacun continuait à espérer qu'un jour, il se mettrait à parler. Et peut-être que si cette femme ne m'avait pas raconté cette histoire, ce buffet aurait continué à traverser les générations, et comme ça, on trouve dans des familles des objets dont l'origine de l'attachement s'est perdue. On sait simplement qu'il ne faut pas s'en séparer, qu'à aucun prix on ne peut s'en séparer, mais on ne sait pas pourquoi.
Le 5 février 1986, je mis au monde Augustin, fils de Paul G., petit-fils de François B., arrière-petit-fils d'un jeune fantôme supérieurement intelligent, Paul B., décédé de mort violente à 23 ans, qui n'a point encore trouvé la paix et me presse maintenant, tandis que j'écris ces lignes, d'en arriver à la violation du secret de famille qui lui permettra peut-être alors, enfin, de trouver une sépulture. Raphaël Billidou. Marie-Paul Jonathan.
Voilà comment se présente un arbre. D'abord, la grande différence entre un arbre généalogique fait dans une thérapie transgénérationnelle et l'arbre du généalogiste, c'est qu'il est construit par rapport à la personne présente, justement pour qu'il y ait bien, visuellement, et qu'en tout cas ça soit un axe de construction, cette verticalité et l'horizontalité qui se manifestent dans chaque génération. Je veux dire qu'un arbre n'est intéressant que par rapport à une histoire. Le travail transgénérationnel, ça a quelque chose de l'enquête aussi. Et il est évident que dans cette quête et dans cette enquête, on fait des découvertes. Et on découvre justement ce qui est non dit, ce qui est tu, et c'est toujours la honte qui est à l'origine du secret. Et parfois on se rend compte que ce sont des choses qui ne sont pas si honteuses que ça, mais qui ont fonctionné comme la chose à ne pas dire. Et à la troisième génération, on ne sait même plus de quoi il s'agit, et on n'a que l'effet du secret. Alors, les personnes qui en Occident sont les pères et mères du transgénérationnel, c'est pas très vieux, ça remonte à une cinquantaine d'années, et c'est Nicolas Abraham et Maria Turok, qui eux ont expliqué, donc ça a été repris par Didier Dumas et par Anne Ancelin, que la fabrication à la troisième génération de la maladie, qu'elle soit psychique ou physique, mais souvent psychique, et qui a sa source dans ce qui a été vécu comme une honte. Et à la troisième génération, il n'y a plus de traces. Et donc le travail analytique, et à plus forte raison le travail transgénérationnel, va amener à retrouver ces traces pour pouvoir arrêter le processus. Et on est toujours très craintif à l'idée d'aller à la recherche des secrets de famille. Et on se rend compte que c'est le silence. Le silence et le camouflage qui font violence.
Rien ne pourra faire que cela, cette chose-là, n'ait pas été, était faite, était dite, disait en substance, je crois, Descartes. Rien ne pouvait plus faire, en effet, que le déchirement atmosphérique créé par le coup de feu, le chapeau échoué sur le parquet à côté de la tête, le contenu contradictoire des poches du défunt, la valise amorcée pour quitter le domicile conjugal, la réalité nacre et nickel du petit pistolet de dame qui fit litige, les propos échangés dans la pièce au-dessus du mort avant l'arrivée de la police, rien ne pouvait plus faire, en effet, que toutes les informations de ce funeste samedi après-midi de l'hiver 1927 ne se soient pas inscrites dans la chair du bébé. Mais si cruelle qu'était la vérité, 1. Ta grand-mère a tué ton père, 2. C'est ton oncle qui l'a tué, 3. Ton papa s'est suicidé, elle lui était toujours plus animée, plus chaleureuse et assimilable que la coulée de lave qui vint par là-dessus s'épandre et se solidifier. Sa grand-mère, une Corse des montagnes, se ferma sur le sujet. Sa mère, réépousée par un proche, donna le jour à 2 autres enfants avant de succomber à la tuberculose. Son oncle, fils dévoué, se plia à une peine de prison tout en réitérant son innocence et emporta dans la tombe le secret. Chère madame, ma fille cadette, Raphaël Billidou.
En fait, la mémoire a commencé à me revenir en regardant des films d'Hitchcock. Alors, on peut s'intéresser à beaucoup de choses en regardant les films d'Hitchcock. On peut s'intéresser au scénario, au jeu des acteurs, à la mise en scène. Et moi, ce qui me scotchait quand je regardais ces films, c'était les héroïnes, les yeux exorbités, la bouche arrondie, terrorisées, ne pouvant dire mot. Et c'était ces images, chaque fois, qui retenaient mon attention et auxquelles je repensais. Alors, j'étais adolescent, j'en parlais avec mes camarades, et eux, ces images-là, les passionnaient pas particulièrement. Et plus tard, lorsque je suis devenu psychiatre, psychanalyste, eh bien, je me suis demandé pourquoi j'avais cette relation si privilégiée à ces images-là. Et petit à petit, j'ai retrouvé des bribes d'émotions, des bribes de souvenirs, et petit à petit, je suis arrivé à reconstruire une scène traumatique que j'ai vécue dans mon enfance, et je suis arrivé à comprendre que ce visage des héroïnes hitchcockiennes qui me fascinait et me bouleversait tellement, c'était le visage de ma mère au moment où il m'était arrivé un accident grave, sous ses yeux.
Une noyade.
Une noyade, voilà, un début de noyade et l'horreur de ma mère essayant de me rattraper et n'y parvenant pas. Et également sa culpabilité à m'avoir emmené passer quelques heures avec elle dans un endroit où en effet je courais un grand risque de me noyer. Alors ce qui a rendu la mémoire de cette scène si compliquée, ben, c'est bien sûr la culpabilité que ma mère a vécue autour de cela. Et c'est le fait que probablement à d'autres moments, quand je regardais le visage de ma mère, je retrouvais sur son visage cette culpabilité qui a dû la ronger pendant longtemps. Et lorsque je suis arrivé à reconstituer cette scène, lorsque j'ai pu en parler avec elle, eh bien, comme souvent ça arrive dans les histoires de secrets, je me suis aperçu qu'elle en était soulagée. Elle était soulagée que je puisse aborder avec elle tout cela. Ça la libérait un petit peu de sa culpabilité, ça lui permettait de voir l'ensemble de ce qu'elle avait vécu à ce moment-là sous un jour différent. Elle était un petit peu comme moi finalement, elle avait cherché à oublier tout ça, elle en avait été trop bouleversée et ça revenait à son insu sur son visage. Vous savez, c'est souvent comme ça, les émotions que nous manifestons dans la vie peuvent être liées aux événements quotidiens que nous vivons, mais parfois nous avons sur notre visage des émotions qui correspondent à des événements du passé et nos enfants souvent voient ces émotions et ne savent pas très bien à quoi les attribuer. C'est un petit peu comme ça hein, que les secrets de famille peuvent faire des ricochets de génération en génération, c'est autour de ces manifestations émotionnelles, étranges, bizarres, inexplicables, qu'ont certains parents en relation avec des événements personnels dont ils ont parfois perdu le souvenir, mais les enfants, eux, sont confrontés à des énigmes et parfois ces énigmes les mettent sur le chemin de tentatives d'explication complètement fantaisistes et ravageuses.
C'était un enfant qui avait 10 mois et depuis qu'il était né, il hurlait tous les matins, toutes les nuits, à 3 heures. Il se réveillait et la mère me disait, on a l'impression qu'on le martyrise, il est inconsolable.
Anne-Marguerite Vexiot.
Et aucun sédatif n'agissait sur ce trouble de sommeil et la mère était épuisée. Elle n'avait jamais pu dormir depuis la naissance de Dimitri. Et je demande à la mère, mais avez-vous perdu un enfant ? Et la mère me dit « Non, mais j'ai un frère qui est mort-né 2 ans et demi avant ma naissance. » Elle dit « D'ailleurs, je me souviens bien que pendant toute la grossesse, j'ai vécu dans l'angoisse de cette mort de cet enfant. Et j'avais peur qu'il arrive la même chose à mon fils. » Je dis « Savez-vous à quelle heure cet enfant est né ?» Elle me dit « J'ai absolument aucune idée. » Je dis « Vous avez toujours vos parents, allez leur demander. » Elle téléphone à ses parents et me rappelle un peu de temps après, 3 heures du matin. En fait, cet enfant s'était identifié à cet enfant mort et se prenait pour le mort. C'est une forme d'identification au fantôme. Il s'est assimilé à cet oncle, en fait, qui était mort-né. Et je l'ai rassuré, je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de toi, tu n'as aucune raison de mourir, tu vas très bien, etc. » Et cet enfant s'est progressivement arrêté de crier la nuit.
Donc comment comprendre ce qui s'est joué là ?
Bien, cette identification se fait dans l'inconscient. On ne sait pas très bien comment on est rattaché quelquefois à une personne parmi ses ancêtres. On joue souvent le rôle d'une personne qui a été exclue ou qui est décédée prématurément ou comme une forme de loyauté invisible. C'est-à-dire qu'on répète ce qu'une personne a fait pour souffrir comme cette personne tant qu'on n'a pas identifié le problème.
Du jour de sa 7e année où, dans la chambre du fond au 9 terre rue Paul Féval, donnant sur le célèbre cabaret de la butte Montmartre, le lapin agile, sa maman à son tour mourut, sous ses yeux il en était sûr, il jouait au pied du lit, on lui a dit « Mais non, qu'est-ce que tu racontes ?» et on l'a chassé de la chambre. Il a vu aussi le convoi des obsèques passer sous sa fenêtre, s'engager dans la rue du Mont-Cenis, et encore, on lui a dit « Mais non, ce n'est pas celui de ta maman !» L'atmosphère de mensonge devint à l'âme du petit François si irrespirable que par un phénomène de survie bien connu devant les épreuves insurmontables, la trace de ses 7 premières années tragiques, d'un coup, s'effaça. Il n'en resta rien, que quelques odeurs de cartables mouillés, linge repassé, soupe de poireaux, des pans de murs, reflets de ruisseaux, musiquettes égrenées au coin de la rue et cris de vitriers dont l'artiste fit son terreau. « Je mange par souvenir, disait-il, en mettant loin dans sa bouche anchois roulés et croûtes oreillettes, mais jamais n'était convié, ni même évoqué dans sa parole, sœur aînée, demi-sœur, demi-frère et enfant de ceux-ci que nous ne connaissons pas. » Il persistait sur cette lande navrée, un silence comme celui des oiseaux après la bombe.
Dans un travail transgénérationnel ou dans un travail analytique, le corps est présent dans tous ses états. Corps fatigué, corps malade, pour certains qui arrivent en analyse avec une maladie, donc corps qui prend l'ascenseur, qui monte les escaliers, qui est en face de moi.
Marie-Paul Jonathan.
Et un mal qui est un mal du temps, me semble-t-il, est que nous sommes à côté de notre corps. Et on le confie très volontiers aux chirurgiens, que ce soit pour la chirurgie esthétique ou autre, hein, comme si un corps pouvait être soigné exactement comme une voiture, remis en état et on le réintègre ou on ne le réintègre pas. L'analyse, pour cela, est quelque chose qui fait prendre conscience de ce corps, mais le transgénérationnel, encore plus. Et donc, cette mémoire du corps, on la retrouve parce que le travail transgénérationnel, en tout cas tel que moi je le conçois et tel que moi je le pratique, commence par remettre le sujet au jour et sur le lieu de sa naissance, par le récit. Donc ça fait intervenir le récit de naissance et ce récit va être récurrent tant qu'il y a le témoin. Pour le faire, on va l'entendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans de sa vie, on va entendre ce récit. Donc, tout part très tôt. Mais ce travail qui part très tôt, qui va nous amener à traverser le temps et les générations, il n'est important, il n'est intéressant que parce qu'il est mis au service du présent. Et c'est là où le corps intervient. Parce que le présent, c'est ce corps, c'est cet homme ou cette femme, tels qu'ils se sont fabriqués justement dans leur verticalité. Et donc le point de départ est le plus archaïque possible. Alors au début, ça va passer par la parole, donc on ne va pas avoir accès à tout ce qui n'est pas discible. Mais petit à petit, oui. Vient au service de ces retrouvailles le rêve, qui bien évidemment, l'analyse de rêve fait partie le plus souvent de tout travail analytique. Mon expérience m'a montré que le travail transgénérationnel pouvait soit provoquer une activité onirique, des gens qui ne rêvaient pas, qui se mettent à rêver, soit des gens qui rêvaient, mais qui vont rêver différemment. Et je me suis rendu compte qu'il y a deux sortes de rêves dans le travail transgénérationnel. Le rêve ordinaire, qui est toujours très intéressant et qui mérite qu'on le travaille en séance, mais aussi des rêves particuliers que moi j'appelle grand rêve. Ce grand rêve a souvent à voir avec quelque chose qui serait proche de la vision ou de la transe. Pourquoi c'est un grand rêve? Parce que c'est quelque chose, on n'a pas l'habitude, on n'a jamais rêvé à ça, on ne s'est jamais vu. Hein, et donc tout d'un coup, quelque chose d'assez étrange. Et suffisamment structuré, pas dans sa longueur, parce que ça peut être parfois un flash, mais en tout cas pour qu'il soit retenu et exprimé. Et en transgénérationnel, ça a ceci de particulier que parfois ce rêve est posé et qu'au cours des séances, on va pouvoir réutiliser le rêve qui va à ce moment-là dire quelque chose, mais parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Alors évidemment, quand je dis trans, je fais un jeu de mots sur transgénérationnel. Et c'est pourquoi je tiens à cette terminologie, parce que dans le mot trans, il y a justement quelque chose de dynamique, et donc il y a des traversées qui se font, aussi bien vers le haut, c'est-à-dire dans la verticalité vers le haut, mais aussi vers le bas, puisque les personnes ont déjà elles-mêmes des enfants, voire même des petits-enfants, donc ça concerne la verticalité dans toute sa dimension. Et donc c'est pour ça que je dis trans dans le sens que ça traverse, effectivement. Et ça traverse et que ça s'arrête, puisqu'on le retient, puisqu'on l'a eu, ce rêve. Il est à soi et on l'a retenu. Et c'est de l'ordre de la traversée.
Quelle maman, ayant vécu en l'espace de 4 mois une maternité, la menace d'un divorce, un deuil, une enquête judiciaire, l'emprisonnement d'un frère, la mainmise de sa mère sur son couple et les pires fêtes de Noël qui se puissent concevoir, dirait aujourd'hui encore que son bébé ne veut plus s'endormir de bonne heure et les retient, sa mère et elle, éveillées, parce que, selon l'expression fataliste consacrée, c'est la période pénible, et d'espérer des nuits bien complètes pour la première année de l'enfant, quand c'est pour la vie entière, si l'on ne s'en occupe pas, que ces nuits et celles de ses descendants seront exigées par un fantôme en souffrance. Serge Tisseron.
Aujourd'hui, nous sommes environnés d'images et il est assez habituel que des images que nous voyons nous bouleversent sans trop que nous sachions pourquoi. Et je me suis aperçu que souvent, certaines images nous bouleversent, non pas à cause de choses que nous aurions vécues personnellement, que nous en souvenions, que nous n'en souvenions pas, mais souvent des images que nous voyons nous bouleversent parce qu'elles résonnent avec des questions familiales, des questions que nous nous sommes posées ou des questions que nous nous sommes posées en relation avec des questions que nos parents se posaient. Et je me souviens comme ça d'un enfant. Les enfants sont très intéressants parce que ils ne retiennent pas leurs questions, ils les posent franchement, au moins quand ils sont petits. Et donc je me souviens d'un enfant qui avait vu le film Bambi, et vous savez, dans ce film, il y a un moment où le petit Bambi est avec sa mère et où un superbe cerf passe à quelques mètres, et à ce moment-là, la scène est silencieuse, le grand cerf ne dit rien, les spectateurs comprennent que ce grand cerf est le père de Bambi, mais ni la mère ni Bambi n'en disent rien. Et à ce moment-là, ce petit garçon dit ce que tout le monde attend, mais dis-lui donc que tu es son père. Et c'était extraordinaire parce que, en fait, cette question que cet enfant a formulée pendant cette projection, eh bien, c'était la question qui se posait dans sa famille. Et c'était même pas la question qui se posait pour lui, puisque lui était bien le fils de son géniteur. C'était la question que son père se posait par rapport à ses propres origines. Et vous voyez que cet enfant avait intériorisé la question de son parent, et qu'en quelque sorte, il aurait pu dire à son grand-père, s'il l'avait connu, « Mais dis-lui donc que tu es son géniteur » pour dire la relation privilégiée de son grand-père à son père.
Cette jeune maman de 1927, pouvait-elle soupçonner qu'elle avait en son bébé son principal allié, l'agent le plus puissant de sa mutation individuelle, et que se tourner vers lui, si insignifiant qu'il sembla dans sa nacelle blanche, lancer entre elle et lui de toute urgence à la dérobée des passerelles d'amour et de confiance, eût été leur salut à tous deux. Mère par quatre fois, ma météorique grand-mère referma les yeux à 32 ans, demeurée telle qu'à l'heure de les ouvrir, une petite fille.
Il y a un secret de famille lorsque dans une famille, il y a quelque chose qui n'est pas dit, bien sûr, mais surtout que cette chose qui n'est pas dite, il est interdit de la connaître, et il est même interdit de savoir qu'elle existe. Ce sont ces familles, vous savez, dans lesquelles les parents disent « nous ne cachons rien ». Ou lorsque un enfant pose une question, on lui répond « mais il n'y a rien de caché là autour ». C'est-à-dire que non seulement... Évidemment, il y a quelque chose de caché. Non seulement quelque chose est caché, mais il est interdit même d'imaginer que quelque chose puisse être caché. Alors c'est important d'avoir cela à l'esprit parce que on comprend qu'en première génération, le secret, c'est quelque chose qui est donc pas dit et qu'il est interdit de connaître à la génération d'après. Quelque chose qui n'est pas dit, c'est quelque chose, on peut dire, d'indicible. Indicible, ça veut dire... qui ne peut pas être dit ou qu'on ne veut pas dire. Ça dépend des circonstances. Il y a des secrets dont on ne veut pas parler, et puis il y a des secrets dont on ne peut pas parler, notamment s'ils peuvent être liés à un traumatisme. Alors, à la génération suivante, l'enfant grandit en ayant l'impression qu'on lui cache quelque chose, en ne sachant pas quoi, et en ayant l'impression qu'il n'a pas le droit de questionner autour de ce qu'on lui cache. C'est-à-dire qu'à la génération suivante, le secret est devenu innommable. Innommable, c'est un mot très clair en français, ça veut dire qu'il ne peut pas être nommé. L'enfant pressent qu'on lui cache quelque chose, des fois il tombe juste, des fois il tombe faux, mais il n'a pas le droit de le nommer. Et puis, ces enfants qui grandissent dans des familles à secret, ils vont bien sûr souvent à leur tour devenir parents, et ces domaines autour desquels ils n'avaient pas le droit de questionner, ces domaines innommables, eh bien, ils vont apprendre à ne pas y penser et à n'avoir aucun comportement qui puisse les réveiller dans leur vie sociale. Et donc, du coup, leurs propres enfants vont être confrontés à des gestes, des attitudes énigmatiques, et pour la troisième génération, le secret sera devenu impensable. Les enfants, même grandis dans de telles circonstances, ne pourront pas se représenter que deux générations avant, il puisse y avoir un secret.
Je peux vous donner un exemple d'une jeune femme qui a eu un petit-neveu. C'était le petit-fils d'une sœur. Un petit-neveu dont on a découvert une épilepsie à 6 mois. Et donc cette patiente vient attristée de ce qui arrivait à ce petit garçon, à sa nièce et à sa sœur. Donc elle était en travail transgénérationnel, travail que sa sœur aînée, ne faisait pas. Et je pense même que la sœur aînée n'était pas tout à fait d'accord pour qu'on aille chercher vers les secrets des grands-parents, ou voire même des arrière-grands-parents, ou même les secrets des parents. Et bon, ceci est mis de côté, elle en parle, et une semaine ou peu de temps après, elle me rapporte un rêve très étrange. C'était un rêve qu'elle avait appelé, puisqu'elle l'avait écrit, le rêve des coquilles Saint-Jacques. Et dans ce rêve, elle se voyait acheter deux coquilles Saint-Jacques et il y avait du monde chez le poissonnier. Donc, elle se dit, oh ben, c'est très simple, je vais les ouvrir moi-même et les nettoyer moi-même. Et elle se met dans un coin de l'étal, elle ouvre ses coquilles Saint-Jacques et elle s'aperçoit que dans ses coquilles Saint-Jacques, il y avait deux cerveaux. Et elle se met à nettoyer les cerveaux et elle se dit, mais enfin, ça serait quand même mieux fait si c'était le poissonnier. Donc, elle confie les coquilles Saint-Jacques au poissonnier qui lui rend les deux coquilles avec les cerveaux nettoyés. Et on pose ce rêve, bon, nous en parlons, et puis tout d'un coup elle me dit, mais vous savez, le cerveau, c'est ce dont souffre mon petit-neveu, c'est quand même quelque chose qui a à voir avec le cerveau, il y a eu des électroencéphalogrammes, et elle me dit, et je pense que dans la famille, il y a eu un autre cerveau malade. Pourquoi deux cerveaux, deux coquilles ? Et effectivement, elle a pu, grâce à cela, demander à sa sœur et à la famille de ce petit garçon de voir, et on a retrouvé quelque chose par le nom. On avait donné à ce petit garçon un prénom qui avait déjà été donné dans la famille à un grand-oncle qui avait eu quelque chose au cerveau. Et donc, c'est là aussi où on peut voir l'importance de la nomination, l'importance du nom. Et alors, ce rêve, c'est elle qui a été traversée, c'est par elle que l'information est arrivée, puisque ça concernait quand même sa famille. Alors, je savais que les analystes qui s'occupent d'épilepsie font du transgénérationnel. C'est pourquoi ce rêve, je me disais, on va le laisser là pour l'instant, et que par la suite, il a pu être réintroduit et on a pu s'en servir dans l'histoire de cette famille.
Il semble qu'il cherche toujours à dire quelque chose à quelqu'un, comme si toute vie, même interrompue, devait aller, quelle que fût sa forme, jusqu'à épuisement du temps qui lui a été fixé. Il aurait aujourd'hui 83 ans, il en avait 82 l'année dernière, quand je commençais à brûler sur la face antérieure du corps, des chevilles aux yeux, au point de rester des nuits entières épinglé comme un papillon sur le matelas, avec l'impression curieuse d'irradier de la lumière dans la pièce, tant je dégageais de chaleur. Recherche de dépression, sclérose en plaques, etc. Tous les spécialistes de l'art furent consultés, toutes les connaissances médicales mises en faillite. Voici plus d'un an à présent que je brûle, de façon invisible, mais comme si des milliards de minuscules aiguilles en buisson s'enfonçaient à la surface de la peau, selon le mouvement d'une seule, au rythme d'une machine à coudre. Avec par moments des pointes plus appuyées, rappelant ces étoiles en tête d'épingle isolées dans le firmament qu'une plus forte intensité lumineuse, tout à coup, souligne à notre attention.
Thank you.
Didier Dumas, vous êtes au départ un disciple de Jacques Lacan et Françoise Dolto.
J'ai fait ma formation avec ces gens-là, oui, ce sont mes parents dans l'analyse.
Et comment en êtes-vous venu à prendre en compte la dimension transgénérationnelle ?
D'une part, parce que la théorie freudienne n'est pas satisfaisante, mais le plus important, c'est comment j'y suis arrivé. J'y suis arrivé tout simplement parce que j'étais perdu à l'école freudienne, j'arrivais pas à faire ma cure personnelle. Et donc à ce moment-là, je me suis fait engager dans un hôpital psychiatrique pour enfants. Et j'avais deux mots en tête, psychose prolétarien, oui, des mots d'ado. Donc là, je vais avoir la vérité. Et ce qui est arrivé, c'est que ces enfants ont tout cassé. J'ai compris pourquoi les analystes ne travaillent pas avec ces enfants. Parce qu'on est confronté à des phénomènes télépathiques incompréhensibles tant qu'on ne les a pas pris en compte. Hein. Donc des phénomènes qui vous font des actings corporels incroyables. Mais surtout, ce que j'ai compris, c'est que ces enfants étaient des explorateurs de leur impensé généalogique. À savoir que c'est une des... Comment dire ? Si la mère a inconsciemment fait son enfant avec un fantôme ou un ancêtre, au lieu que l'enfant puisse aller vers le futur, il va vers le passé. Donc, ce sont des explorateurs, disons, de leur impensé ancestral. Et en plus, ils ont toutes les facultés des dompsys. Quand je suis arrivé dans l'hôpital, pour moi, les enfants psychotiques, ce qu'on m'en avait dit, c'est qu'ils étaient abîmés, escastés, voire débiles. Et je tombe sur le fait que oui, ces enfants parlent mal ou ne parlent pas du tout, ont un discours très difficile à comprendre, mais qui se comprend. Hein ? Je pense à la petite Claude qui parlait tout en signifiant. Un beau jour, j'ai compris son discours, je l'ai décrypté. Et qui, le jour de la mort de son père, alors on ne lui avait pas annoncé que son père était mourant, elle ne portait pas le nom de son père, on l'avait caché à la psychotique et à l'analyste, et elle m'a montré ce qui se passait en sortant de son corps. Mais à l'époque, moi j'avais que les références taoïstes du maître qui quitte son corps et qui est comme de la cendre éteinte et du bois mort, mais c'était tout à fait ça. Je l'ai secoué, vous voyez, j'ai été comme une mère à ce moment-là, vous êtes pris de panique, il n'y a plus personne. Et là, elle est revenue avec un petit rire, je m'en rappellerai toujours, un petit rire très féminin, une très gentille sorcière, qui voulait dire, je ne sais pas que j'ai entendu comme ça, mon chéri, t'es pas au parfum. Et elle m'a fait ce dessin absolument superbe pour me montrer qu'elle avait fait une sortie de corps. Vous voyez, c'est un dessin dans lequel elle n'a pas de membres, alors que dans tous les autres dessins, elle se représentait différemment. Et où elle relie son oreille par un fil qui part dans l'infini, où elle montre qu'elle est reliée télépathiquement à son père en train de partir. Bon, là, les enfants psychotiques sont restés dans ce qu'on appelle dans le chamanisme l'autre réalité, dans la psychanalyse, la psyché prélangagière, qui est celle de l'enfant de moins de 3 ans, l'enfant avant qu'il prononce des phrases et qu'il ait acquis la faculté de mentir, qui est structurante, c'est au moment où l'enfant dit « je », qu'il acquiert la faculté de mentir. Avant, il ne peut pas mentir parce qu'il est dans la psyché originaire et qu'il ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas les mêmes images dans sa tête et celles de sa mère. C'est au moment où il prononce des phrases qu'il découvre qu'il n'y a pas les mêmes choses dans la tête de tout le monde et qu'il acquiert la faculté de mentir.
Anne-Marguerite Vexiot, vous avez découvert une technique par l'intermédiaire de l'ordinateur qui vous permet de vous relier à l'inconscient d'une personne et donc
à toute son histoire. Mais comment avez-vous découvert cette technique ?
Mais au départ, je suis orthophoniste de formation et je me suis spécialisée progressivement dans la prise en charge des enfants lourdement handicapés, notamment des autistes. J'étais donc à l'affût de tout ce qui pouvait améliorer cette communication avec ces personnes enfermées dans le silence. Et j'ai eu vent d'une méthode qui se pratiquait en Australie et je suis partie là-bas pour essayer d'avoir une corde de plus à mon arc pour leur donner des outils de communication. Je suis revenue avec un outil qui paraît très simple. On présente un petit clavier d'ordinateur à l'enfant ou à l'adulte. Et puis, il y a un partenaire de communication qu'on appelle le facilitant qui soutient la main du patient et qui sent la main qui guide vers les touches. Et il s'écrit des mots, des phrases dans un langage pas toujours très structuré, assez métaphorique et qui exprime des choses assez étonnantes. Au début, je croyais que cela remplaçait la parole. Et puis, c'est en m'occupant progressivement d'enfants dits normaux que j'ai réalisé qu'on était sur un autre plan de conscience. C'est-à-dire que ce qui est exprimé n'est pas volontaire. C'est quelque chose qui se situe dans les profondeurs du non-conscient et qui s'exprime sans la volonté, donc du facilité, on appelle celui qui s'exprime. On s'aperçoit que beaucoup de choses ont été engrangées dans l'esprit de la personne, sans même qu'elles aient été dites ou transmises. Engrangées, c'est mémorisé par l'inconscient, en fait. Et ce sont souvent des traumatismes qui ont été mémorisés, des secrets de famille, des poids liés à des histoires douloureuses familiales et qui gênent, qui empêchent l'épanouissement total de la personne. Donc la personne vient consulter parce que elle est dépressive ou boulimique ou bien qu'elle a un problème, tous les problèmes qu'on peut trouver dans la pathologie habituelle. Et puis elle va exprimer quelque chose qu'elle ne sait pas ou qu'elle savait, qui est de l'ordre du préconscient, mais qui va la libérer de ce poids qu'elle porte sans le savoir. Je pense que nous sommes tous reliés par nos inconscients, qu'il existe une communication d'inconscient à inconscient et que cela se transmet. Alors, reste à savoir comment cette information se transmet. Hans Ford parle par exemple d'une grande toile d'araignée où nous sommes tous reliés par des fils invisibles et la psychophanie activerait ces liens invisible entre les personnes. Donc on créerait des canaux de communication par lesquels passerait cet inconscient. Le mot psychophanie, c'est un mot que j'ai créé. Au départ, je suis donc allée me former à la communication facilitée en Australie. Et puis, réalisant qu'il ne s'agissait pas d'une communication consciente, je l'ai appelée psychophanie du radical fan, qui veut dire révéler, mettre au jour. Donc psyché, l'âme, mettre au jour l'esprit, la conscience profonde, ce que vous voulez, de la personne.
Donc cette révélation se fait entre la personne qui vient consulter et l'intermédiaire, donc ce qu'on appelle le facilitant. Est-ce qu'il n'y a pas justement intervention, voire intrusion de cette personne intermédiaire ?
Alors intrusion, je ne dirais pas, mais participation inconsciente et projection inconsciente, vraisemblablement, parce que c'est une chose qu'on ne maîtrise pas, son inconscient. Donc volontairement, bien entendu, le facilitant ne va pas influencer son patient. Mais il se peut que de par sa propre histoire, il influence indirectement le patient. Donc il ne faut pas prendre tout ce qui est écrit pour une vérité historique, parce que le fantasme aussi peut s'exprimer, mais l'important, c'est que le patient renoue avec ses racines et reconstitue son histoire qui prend sens et projette un regard différent sur ce qu'il a vécu et prenne conscience de sa possibilité d'agir malgré tous ces poids auxquels il est relié.
On comprend donc qu'un sujet puisse retrouver des souvenirs anciens de sa prime enfance, même in utero, mais comment peut-il être porteur de souvenirs antérieure à sa naissance et même peut-être dont ses parents eux-mêmes n'étaient pas conscients?
Moi, je pense que c'est le même mécanisme, ça agit dans l'inconscient, il n'y a ni composante du temps, ni composante de l'espace. Donc on peut imaginer que ces connexions s'établissent sur plusieurs générations, et aussi non seulement dans le sens vertical, mais dans le sens horizontal, avec des personnes qui sont très éloignées de la même façon.
Pourquoi faut-il que ce pauvre Paul, même après sa mort et par sa mort même, nous tourmente encore comme il l'a fait pendant sa triste vie ? Interroge sa femme, qui se fût attendue à moins de turbulences. Qu'est-il arrivé à Paul Biédou ? Quelles mauvaises gifles l'ont élevé ? Quel sombre savoir l'ont remanié dans sa grande intelligence ? Quel accueil son premier cri, ses autres larmes, ont-ils reçu ? Je ne sais et ne puis d'ailleurs commencer à soigner les morts.
C'est l'histoire d'une fillette dont le grand-père s'était pendu. Les parents, la fillette, le grand-père vivaient dans la même maison. Le grand-père s'était pendu et les parents avaient décidé de cacher à la fillette la manière dont il était mort. Il n'avait pas caché la mort du grand-père, mais la manière dont il était mort.
Serge Tisseron.
Et puis bien sûr, cette fillette avait entendu parler de pendaison, hein, c'est inévitable. Elle avait entendu prononcer le mot, mais en même temps, elle avait compris que personne n'avait envie qu'elle le comprenne. Et il s'était passé pour elle, ce qui se passe souvent dans ces situations, elle avait appris à ne pas poser de questions, et elle avait appris à écarter de sa pensée tout ce qui pouvait concerner les conditions de la mort de son grand-père, et notamment la pendaison. Et toute cette inquiétude qu'elle avait autour de ce sujet lui était revenue autrement. Et ça lui était revenu autour de l'angoisse des pieds nus. Quand on dit pieds nus, quand on dit pendu, donc peut-être c'était une proximité phonétique, peut-être il y avait d'autres raisons. Toujours est-il que cette fillette était terrorisée de voir des pieds nus, de voir ses propres pieds nus, et même de voir dessiner ou filmer des pieds nus. Et heureusement, cette fillette à l'adolescence a pu être suivie en psychothérapie, le thérapeute s'est intéressé à l'histoire familiale, et donc cette histoire de secret a pu être discutée, et la fillette a pu aller mieux. Mais imaginez qu'elle n'ait pas pu être soignée. Eh bien, cette crainte des pieds nus l'aurait pas empêchée de devenir mère, mais vous voyez que probablement elle aurait élevé son enfant d'une manière étrange. Elle aurait pas pu regarder les pieds nus de son bébé, elle aurait eu sans doute de la difficulté à lui donner son bain, à le langer, elle aurait eu de la difficulté à accompagner ses premiers pas, et on peut imaginer que ce bébé aurait eu à son tour des difficultés, peut-être des troubles du schéma corporel, peut-être des troubles de la marche. Et si ce bébé était né dans ces conditions, s'il était devenu adulte, il aurait pu continuer à avoir des troubles et ne pas connaître leur origine. Eh bien, vous voyez, pour la génération des parents de la fillette, le secret était indicible. Les parents avaient décidé de ne pas dire que le grand-père s'était pendu. Pour la fillette, le secret était innommable. Elle pouvait vaguement se représenter les conditions de la mort de son grand-père, mais elle n'était pas sûre de ne pas se tromper, et en tout cas, elle n'avait pas le droit de le nommer. Et puis, pour la génération suivante, la troisième génération, la génération de l'enfant de cette fillette, si elle avait été mère sans être soignée, eh bien, pour cette troisième génération, le secret était devenu impensable, c'est-à-dire que un homme qui aurait eu des troubles de la marche et des troubles du schéma corporel après avoir été élevé par une telle mère, n'aurait absolument eu aucun moyen de pouvoir penser qu'il avait ces troubles en relation avec un secret qu'on aurait caché à sa mère. Et d'ailleurs, on peut même penser que si un jour une tante, un oncle avait dit à un tel homme ou une telle femme l'origine de ces troubles de la marche ou du schéma corporel, eh bien, ça ne l'aurait pas concerné. Il n'aurait pas pu mettre en relation ces troubles d'un côté et ce secret familial d'un autre. Ça montre bien d'ailleurs que la vérité dans ces histoires de secrets n'est pas vraiment essentiel, puisque très vite, les symptômes évoluent pour leur propre compte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut prendre les choses très tôt, et encore une fois, ce qui est le plus important, c'est de laisser aux enfants toute leur curiosité pour poser des questions et les déculpabiliser de l'angoisse qu'ils peuvent ressentir chez les parents. Parce que dans l'histoire de cette fillette aussi, probablement, l'angoisse de ses parents était grande. Quand on est confronté à quelqu'un qui s'est suicidé près de soi, l'angoisse est toujours plus grande que quand on perd un proche par mort naturelle. Et probablement, cette fillette a été confrontée à une très très grande angoisse de ses parents et probablement, elle s'en était cru la cause, et c'est ça qui avait provoqué son angoisse des pieds nus.
Dumas.
Le fantôme a été théorisé par Nicolas Abraham. C'est un objet de l'inconscient transmissible d'inconscient à inconscient dans les relations de filiation. Donc, en clinique, ce sont des pathologies qui ne s'expriment pas du tout par le vécu oublié de la petite enfance. L'inconscient est défini par Freud comme le vécu oublié de la petite enfance. Elle s'explique par le vécu oublié de l'enfance des parents, des grands-parents, voire des arrière-grands-parents. Le fantôme est toujours un non-dit concernant toujours le sexe, la mort ou les deux. C'est ça qui va créer un fantôme. C'est-à-dire un secret, un non-dit qu'ont vécu les ancêtres, qui va être caché et qui va ressortir sous forme de pathologie. Donc, les pathologies sont les plus multiples parce que sitôt qu'on prend la clinique transgénérationnelle, ben tout saute, c'est-à-dire qu'un fantôme peut très bien se manifester sous forme de symptômes obsessionnels, de symptômes hystériques, de symptômes pervers, ou une structure psychotique, comme chez ces enfants qui m'ont tout appris.
Clairement maintenant, apparaît qu'il m'échoit, à moi, écrivain et canal, de faire le travail que mon père n'a pu faire et d'accorder au pauvre Paul, arraché de la scène dans toute la vigueur de sa détresse et n'en ayant accumulé que plus de haine et d'amertume, l'écoute qu'il réclame avant que s'achève, à 18h35 le 10 décembre 1997, pour quelles autres épreuves, l'épuisant séjour de 70 années qui l'oblige, depuis son départ par mort violente, a traîné dans toute sa force, mais oisif, autour de la terre. Raphaël Billidou.
Quand on a commencé à parler des secrets de famille, il y a une dizaine d'années, il y a très vite une illusion qui s'est installée. C'est qu'il suffirait, comme on disait à l'époque, de révéler le secret pour qu'immédiatement tout rentre dans l'ordre. Un enfant est né par fécondation in vitro, on lui a toujours caché, il a de mauvais résultats à l'école, on va lui dire et hop, le trimestre suivant, il aura de bons résultats. Je plaisante à peine, hein, c'est des questions qui me sont parfois posées quand je reçois des familles dans ces situations.
Serge Tisseron.
Alors, il faut dire que confier un secret, d'abord, ce n'est pas le révéler. Parce que toujours l'enfant pressent qu'on lui cache quelque chose, et souvent même il pressent à peu près autour de quoi tourne ce qu'on lui cache. Donc je préfère parler dans ces moments-là de confirmation du secret. Alors confirmer un secret à un enfant va lui permettre de se représenter sa vie autrement et va notamment lui permettre de ne plus se sentir coupable des inquiétudes ou des colères ou des angoisses de ses parents. Donc c'est considérable. Ceci dit, ça va pas non plus lui changer radicalement la vie, mais ça va lui permettre de commencer petit à petit à envisager sa vie autrement s'il en a le désir. C'est pour ça que je dis toujours que mettre fin à un secret de famille, c'est pas ôter le poids que les uns et les autres peuvent avoir attaché à leur cheville, mais c'est permettre à ceux qui veulent s'en libérer de pouvoir le faire. Tous ceux qui ont des chaînes aux pieds à cause d'un secret de famille peuvent commencer à les scier à partir du moment où ils sont au courant de l'existence du secret. Et je dirais, ils peuvent commencer à construire sur du solide. Parce qu'encore une fois, ce qui est terrible quand on a grandi dans une famille à secret, c'est qu'on n'a jamais su si ce qu'on imaginait qu'on nous cachait, c'était la vérité, auquel cas on aurait bien compris, ou si c'était peut-être une fable, une histoire qu'on se racontait à soi-même, une sorte de roman familial. Et on n'a jamais su si on devait pencher d'un côté, j'ai bien tout compris, ou si on devait pencher de l'autre, je me raconte des fables. Mais lorsqu'on a la confirmation du secret, on sait qu'on ne sait pas raconter des fables, et là on peut commencer du coup à réexaminer sa vie sous un autre jour. En fait, quand dans une famille il y a un secret, on ne peut jamais très bien savoir quelle est la génération à l'origine du secret. C'est pour ça que moi je conseille toujours aux gens qui viennent me voir et qui sentent qu'il y a un secret dans leur famille, je leur conseille toujours de poser des questions avec une phrase à peu près comme celle-ci. J'ai l'impression qu'un jour, quelqu'un dans notre famille a caché quelque chose. Parce que si on dit les choses de façon impersonnelle comme ça, eh bien, on a toutes les chances finalement de trouver des complices. Des gens qui vont nous dire, ah ben oui, toi aussi tu as l'impression qu'il y a eu quelque chose de caché dans notre famille, ben moi aussi. Et du coup, vous voyez, on va pouvoir chercher ensemble. Et chercher ensemble, c'est la meilleure façon pour augmenter ses chances de trouver. Mais si au contraire, on va voir des parents ou des grands-parents en leur disant j'ai l'impression que tu m'as toujours caché quelque chose, je crois que je me trompe pas, maintenant il faut le dire, je partirai pas d'ici avant que t'aies craché le morceau. Si on dit ça, non seulement on saura rien, mais en plus, après, on va se culpabiliser horriblement parce que probablement, on aura mis nos proches très mal. Donc, on aura perdu sur tous les tableaux. Vous voyez, il faut avoir à l'idée que quand on pressent un secret, c'est toujours qu'il existe, mais c'est pas forcément le secret qu'on imagine, et puis c'est pas forcément la génération qu'on imagine qui l'a fabriqué, ça peut être une autre.
La psychogénéalogie ou la transmission de la mémoire familiale, la part cachée. Avec Serge Tisseron, Anne-Marguerite Vexiot, Marie-Paul Jonathan, Didier Dumas. Les textes lus sont extraits de « Chère Madame, ma fille cadette » de Raphaël Billidou. Groupe de réalisation Michel Gassic, Jean-Louis Deloncle, Annick Brien, Claude Giovanetti. Une émission de Bénédicte Niogret.
C'était la psychogénéalogie, troisième partie, Les secrets de famille, une émission du 13 août 2005.